répudie sa femme, lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir l'adultère, et celui qui épouse une femme répudiée, c'est-à-dire divorcée, commet un adultère. La première chose qu'il faut que vous sachiez en introduction, c'est simplement que cette partie est en fait une continuation de ce que Jésus venait de dire, c'est-à-dire vous pouvez commettre l'adultère sans toucher. C'était la première partie. Vous avez vu que si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. La raison pour laquelle je dis que Jésus est toujours dans le même sujet, c'est que cette partie commence différemment que toutes les autres sous-sections du chapitre 5. Regardez avec moi juste un moment et vous verrez ce que je veux dire. Regardez le verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Ensuite, le verset 27. Vous avez entendu qu'il a été dit. Ensuite, verset 33. Vous avez encore entendu qu'il a été dit. Et puis le verset 38. Vous avez entendu qu'il a été dit. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Bon, 40, 43, si vous voulez. Vous avez entendu qu'il a été dit. Chaque fois que Jésus commence un nouveau sujet, il utilise la même phrase, mais pas ici. Regardez. Il ne dit pas « vous avez entendu qu'il a été dit », il dit tout simplement, littéralement, au verset 31, « il a aussi été dit ». Il a aussi été dit. C'est-à-dire, je suis dans le « aussi ». Je viens de vous parler du commandement « ne commettez pas l'adultère » et je vous ai montré comment les pharisiens diminuent le sens de ce commandement. Mais regarder la femme pour convoiter n'est pas la seule manière de commettre l'adultère. On peut commettre l'adultère par divorce. C'est aussi une manière de commettre l'adultère. Et c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui, l'adultère par divorce. Nous savons tous que les hommes veulent diminuer l'exigence de Dieu par rapport au mariage et à l'amour fidèle et permanent que le mariage doit incarner. Les pharisiens le faisaient, nous allons voir comment, mais la France est remplie aujourd'hui de la même pensée. Rendre le divorce légitime et même de plus en plus facile. Le sujet est d'une grande importance parce que je rencontre constamment des personnes qui disent que leur vie a été abîmée de manière permanente par le divorce de leurs parents. Ils disent qu'il y a une souffrance, il y a des séquelles, il y a des blessures de l'âme, de la personnalité, qui vont jamais partir. Parce que vous savez que la chose la plus importante pour un enfant en grandissant, c'est de trouver la sécurité qui vient une seule réalité dans sa vie, l'amour de ses parents l'un pour l'autre. Il y a une seule chose qui est sûre dans mon monde, dans la vie, c'est que maman et papa qui prennent soin de moi et qui m'assurent que ce monde, que ça peut aller dans ce monde, qu'ils s'attachent, ils s'aiment. Et même si tout tombe en miettes autour de moi, il y a une chose dont je suis sûr, c'est l'amour de maman et papa. Et quand cela explose, nous ne pouvons pas décrire comment ça détruit et dévaste Le monde de l'enfant est tout ce qu'il pense sur la vie. Il n'y a plus rien de sûr dans l'existence humaine. Tout est complètement foutu. L'insécurité, le malaise, le doute. En qui est-ce que je peux avoir confiance si maman a été infidèle envers papa, si papa a été infidèle envers maman? C'est pas une petite chose quand l'amour n'est pas fidèle et permanent, c'est-à-dire comme l'amour de Dieu. Quand les hommes décident de ne pas être comme Dieu, ils détruisent le monde de leurs enfants, leur famille et toute l'existence humaine. Donc les pharisiens disaient, pour tordre la loi de Dieu, verset 31, regardez, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Dans ma Bible, cette phrase est en italique, ça veut dire que c'est une citation de l'Ancien Testament, de la loi de Dieu. Mais ce n'est pas vraiment cette phrase que les pharisiens lâchaient. Ce n'était pas dans la loi de Dieu, cette phrase. C'est un peu changé et certainement arraché de son contexte. Mais en tout cas, les pharisiens, par cette phrase, que celui qui répudie sa femme, disons que la loi de Dieu me donne cette phrase, il sous-entendait et il disait explicitement, il est permis parfois à un homme de répudier sa femme, de la divorcer. Ailleurs, dans le Nouveau Testament, il disputait avec Jésus, et on va regarder tout à l'heure Deutéronome chapitre 24 où cette phrase est tirée. Et je vais vous montrer que ce n'est pas exactement la bonne citation. Mais d'abord, écoutez, à un autre moment dans son ministère, Jésus dispute, ou bien il répond aux questions des pharisiens. Et en Marc 10, nous lisons ceci. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, Jésus avait des garçons comme ça dans sa vie aussi, quand il enseignait, pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis un homme de répudier, divorcer sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Et voilà ce que les pharisiens disent explicitement. Mais Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. On va voir la réponse de Jésus qui n'est pas tout à fait d'accord avec la pensée des pharisiens. Mais selon eux, le divorce fait partie de la loi de Dieu, de ce que Dieu commande aux hommes. Maintenant, d'où tire-t-il cette perspective? Deutéronome, chapitre 24, les versets 1 à 4, disent ceci. Et je lis la bonne traduction parce que parfois dans nos Bibles, on n'a pas une bonne traduction de ces versets. Mais écoutez la manière dans la Bible en français courant, pour une fois, dit cette phrase, parce qu'il y a un conditionnel qui au fond de cette structure grammaticale. Supposons qu'un homme épouse une femme et qu'un jour elle cesse de lui plaire car il a quelque chose à lui reprocher. Il rédige alors une attestation de divorce, il la lui remet et la renvoie de chez lui. Après l'avoir quitté, la femme épouse un autre homme. Supposons qu'à son retour, le second mari cesse de l'aimer, rédige une attestation de divorce qui lui remet et la renvoie de chez lui ou bien qu'il meure. Dans l'un ou dans l'autre cas, C'est des cas hypothétiques. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Ça, c'est les lois qui sont pas des principes généraux, mais des lois qui sont là pour gérer un cas de figure. Okay? Dans l'un ou l'autre cas, le premier mari n'a pas le droit de reprendre pour femme celle qu'il a renvoyée, car elle est devenue impure pour lui. Le Seigneur jugerait cela abominable, ainsi de suite. Donc, quand nous voyons cette loi, Deutéronome ne dit pas quand vous allez divorcer vos femmes, donnez-leur des certificats de divorce. Le passage dit seulement si un homme répudie sa femme. C'est-à-dire que Dieu a donné une loi pour gérer une chose qui était déjà existante en Israël et partout dans le monde d'Antiquité. À cause de la dureté du cœur des hommes, les hommes se divorçaient, répudiaient leurs femmes. C'était un fléau et ça n'allait pas arrêter, même en Israël. Ça n'allait pas arrêter. La seule chose à faire, la seule chose possible à faire, c'était de gérer le mal déjà présent. Et Dieu dit donc, si, supposons qu'un homme répudie sa femme, alors qu'il lui donne un certificat de divorce. Et quel était le but de cela? C'était de protéger la femme parce que le certificat de divorce lui donne la liberté de se remarier dans ce cas de figure. Sans ce certificat, personne n'ose s'approcher d'elle parce qu'elle n'est pas déliée de cet homme et elle est sans protection. Dans le monde d'Antiquité, être une femme dans cette situation, c'est être vouée à la prostitution. C'était donc de protéger les droits de la femme, y compris le droit de se remarier. Mais donc, ce n'est pas une loi, une volonté de Dieu que les hommes et les femmes se divorcent, mais Dieu gère la réalité du divorce qui est venue dans le monde par notre péché. C'est pour ça que Jésus, en répondant en Marc 10 aux pharisiens, qui lui éprouvait, dit ceci. Moïse, dirent-ils, donc je répète ce que j'ai lu, a permis d'écrire un acte de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit pour vous ce commandement, mais au commencement de la création, ce n'était pas comme ça. Dieu fit l'homme et la femme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Il n'y avait pas de disposition pour le divorce dans l'ordre créationnel. Le mariage était censé être permanent. Moi, je dirais que c'est comme si je vous disais. Si une personne braque ton entreprise, tu ne peux pas le tuer à moins qu'il mette ta vie en danger. Alors, est-ce que cette loi, si c'est une loi, hein, une loi en France qui dit si quelqu'un braque ta maison, ton entreprise, tu ne peux pas le tuer comme ça, juste pour le vol, mais seulement si il est en train d'essayer de te tuer. Est-ce que cette loi permet le braquage en France? Bien sûr que non. Ça gère une situation qui existe déjà, où il y a des braquages, il faut le gérer parce que ça va arriver. Et cette loi dit, tu ne peux pas faire cela, mais tu peux faire cela. D'accord? C'est un peu dans ce sens que cette permission est donnée. Maintenant, pensons à nos lois de divorce, à nos habitudes de divorce aujourd'hui en France, un moment. Et à ceux des pharisiens. D'abord, on va prendre les pharisiens. Pour quelle cause est-ce que les pharisiens permettaient le divorce? Dans ce passage de Deutéronome, il est dit que si un homme voit quelque chose, qu'est-ce que j'ai lu? Quelque chose à lui reprocher, ou dans d'autres versions, quelque chose d'inconvénient. Littéralement, c'est une chose une chose de nudité, littéralement. Alors, donc, il y a eu un débat parmi les différentes écoles des rabbins. Qu'est-ce que ça voulait dire, cette chose inconvénient? L'école de Shammai disait, je cite, « Un homme ne peut divorcer sa femme à moins qu'il trouve en elle une chose indécente, car il a été créé, car il a trouvé en elle quelque chose de nu, d'indécent. » L'école de Hillel a dit « Une femme peut divorcer sa femme même si elle gâche un repas pour lui, car il a été créé, car il a trouvé indécence en elle, en quelque chose, c'est-à-dire une chose quelconque. » Et le rabbi Akaba a dit, je cite, « Même s'il trouve une autre plus belle qu'elle, car il a été créé, mais qu'un jour elle cesse de lui plaire. » La société romaine n'était pas meilleure. Il était très facile pour un homme dans l'Empire romain de l'époque de se divorcer. Tout ce qu'il devait faire, c'est de dire à haute voix cette phrase « Tu as restibi abeto ». Ne me demande pas le sens de cette phrase en latin. Et le philosophe Sénèque se plaint que, je cite, que bien des femmes comptent leurs années selon le nombre de leurs maris. Ils quittent leur foyer pour se marier et se marient afin de divorcer. C'est comme ça que Sénèque décrit la société romaine. C'est vraiment terrible. On dirait la France du 20e et 21e siècle. L'autre jour, Nikki, ma femme, disait, je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent. Donc, il y avait quelqu'un de divorcé, un client dans un de ses cours d'anglais. On discutait cela. Oui, cette femme était juste sur le point de quitter son mari. Elle a dit à Nikki dans le cours, demain, je quitte mon mari. Mais qui se souciait pour cette dame et se demandait si elle pouvait avoir des paroles bienfaisantes pour elle. Et puis, elle m'a raconté dans le cours de cette conversation que le problème, c'est que dans notre entreprise, elle a beaucoup d'autres enseignants qui lui enseignent et ils sont tous divorcés. Tout le monde est divorcé dans notre entreprise, sauf deux femmes, ma femme et la directrice. Et comme je vous ai dit peut-être une fois, le dernier jour de l'année de la dernière année de l'école primaire de Michel, ma fille, le prof a fait un sondage dans la classe pour savoir combien des enfants avaient encore leurs parents ensemble. De 26 enfants, il y avait 5 enfants dont les parents n'étaient pas divorcés ou plus ensemble. Voilà notre situation. Il est facile de se divorcer, il est facile de répudier son mari, de sa femme. Maintenant, nous voulons demander quel est réellement l'enseignement de la loi de Dieu que Jésus veut remettre en sa place. Il veut donner la plénitude à ce que Dieu demande et veut pour sa gloire et pour notre bonheur. Quelle est la voie bienfaisante et juste de Dieu. Donc, Jésus dit dans le verset 32 que vous voyez, « Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. » Vous voyez le problème que Jésus a en tête et le souci qu'un homme doit avoir, c'est pas en premier lieu pour lui-même ou par rapport à lui-même. C'est ce qu'il est en train de faire à sa femme. L'expose à devenir adultère et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère contre le mari originel. Donc, l'homme doit avoir un souci pour sa femme qu'il expose à l'adultère. Et pour l'homme contre qui il va commettre un adultère. C'est très intéressant cette manière de voir. Ok, deux choses. Si nous voulons comprendre cette affaire, et puis il y a bien sûr une application pour nous. Première chose, le principe de base, c'est que le mariage ne doit pas être dissous, car c'est un lien d'amour fidèle et permanent voulu par Dieu. Nous avons vu ce que Jésus a dit lorsqu'il a expliqué le problème en disant que au commencement, Dieu donc fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux. Cet amour est tellement fort, ils ne sont plus deux. Mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. La raison déterminative pour laquelle l'homme ne doit pas divorcer, la femme ne doit pas divorcer, c'est que Dieu a créé le mariage comme un lien d'amour et de fidélité qui reflète son amour et sa fidélité, qui fait en sorte que l'homme, l'image de Dieu, vit comme Dieu et comme Dieu, trouve son bonheur à être comme Dieu dans l'amour et la fidélité dans ce monde ici-bas. C'est là le problème. Et je vais le dire tout à l'heure, mais la raison pour laquelle le divorce est une abomination, c'est que c'est un refus du caractère de Dieu lui-même, que Dieu dit qu'il a le droit d'imposer sur nous. Amour qui ne lâche jamais. Le divorce dit amour qui lâche, amour qui s'arrête, amour qui n'est pas assez fort pour supporter le péché du conjoint. Et ça, c'est pas l'amour de Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas sa voie, ce n'est pas sa loi, ce n'est pas son caractère, ce n'est pas son but. Je suis en train de vous donner le principe de base. J'en viens à deux exceptions où le divorce est permis par Dieu pour le croyant. Mais je suis en train de vous dire que le principe de base, c'est que le divorce ne doit pas exister. Et cela veut dire que le divorce n'est pas la solution au problème courant des hommes et des femmes en France aujourd'hui. Il n'y a que deux exceptions qui sont extrêmes que je vais vous donner. Mais normalement, les gens se divorcent pour un tas de raisons pour lesquelles le divorce n'est pas la solution. Je vous donne quelques exemples. Pourquoi est-ce que les gens se divorcent? Nous avons beaucoup de conflits. On se bagarre tout le temps. Notre amour a refroidi. Nous avons un éloignement émotionnel. Nous avons des différends graves au sujet de l'argent, l'éducation des enfants, la vie sociale, la vie professionnelle. Nous avons des problèmes d'épanouissement sexuel dans notre couple. Nous avons de moins en moins des intérêts communs. Et devant ces problèmes-là, beaucoup de couples pensent que l'amour ne peut pas durer. L'amour devant ces choses-là n'est pas assez grand. Ces choses qui sont des péchés, des aspects du mal, du royaume de Satan et des ténèbres, sont plus grands que l'amour. Donc plus grands que Dieu qui nous joint et qui nous dit d'aimer comme lui. Ainsi, la seule solution pour eux, pour beaucoup de gens, ils n'en voient pas d'autre, c'est le divorce. Et qu'est-ce que ça nous apprend au sujet de notre société et de nous-mêmes? Ça nous apprend que le mariage nous montre, plus que toute autre chose, qui nous sommes. Et aujourd'hui, dans notre société, ce que nous voyons, c'est que les hommes et les femmes sont incapables d'aimer. Incapable d'aimer. Dès qu'il y a l'entrée de différends, de conflits. Cet amour est tellement petit, tellement conditionnel, tellement pas comme l'amour de Dieu, qu'elle se casse, qu'elle se brise, qu'elle diminue, qu'elle s'estompe, qu'elle disparaît. Elle est tout sauf ce que nous lisons dans 1 Corinthiens. L'amour de Dieu, hein, et de l'amant Dieu est patient, plein de bonté. Je saute quelques phrases. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Or, notre amour dans cette société de divorce, nous pourrions réécrire ça pour dire que l'amour excuse presque rien, elle croit très peu, elle espère plus, elle ne supporte que très peu de choses. L'amour périt souvent. Si tel est l'état de notre société, il ne doit pas en être de même chez les chrétiens. Parce que nous avons des ressources différentes et nous comprenons que lorsque nous avons des conflits et des problèmes dans notre mariage, c'est un appel non pas à divorcer, non pas à pousser notre manque d'amour jusqu'à son terme, son aboutissement, ne plus aimer. Mais c'est un appel à changer, à être transformé, à s'exposer, à voir que le mariage a exposé la petitesse de notre amour. Et à trouver en Jésus-Christ le pardon, la transformation, l'illumination sur nous-mêmes ou là où il faut changer et trouver, retrouver l'amour, retrouver l'affection. Si deux conjoints sont vraiment nés de nouveau, le divorce n'est pas une solution. Le divorce est le refus de la solution qui est Jésus-Christ et sa puissance pour transformer le cœur. C'est pour ça que Paul dit aussi en 1 Corinthiens 7 ceci, à ceux qui sont mariés, et il parle de mariage en général, mariage entre deux chrétiens, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas point de son mari. Si elle est séparée, si nous avons fait cette bêtise, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. On ne doit jamais pousser le manque d'amour, l'anti-amour, jusqu'à son aboutissement. Si vous allez jusque-là, ne va pas plus loin. Parce que en restant célibataire, tu es en train de reconnaître que même si tu as fait des bêtises et des péchés, le divorce n'est pas la solution, c'est Christ. Et tu es en train de reconnaître sous l'autorité que ton amour et ta fidélité envers ton conjoint doivent rester permanents et vivants. Donc, quoi que tu fasses, tu ne peux pas aller vers un autre. Parce qu'aller vers un autre, c'est fermer la porte définitivement vers cet amour et cette fidélité que rien ne doit briser. Ok. Il existe néanmoins deux situations exceptionnelles où le divorce est légitime devant Dieu parce que le mariage a été détruit dans ces deux cas. Premier cas, c'est celui que Jésus mentionne ici dans ce verset 32. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Le mot infidélité, donc, ça parle on dit souvent l'adultère, mais le mot c'est pornéa. Et pornéa signifiait au début prostitution, mais le mot est devenu beaucoup plus large et englobe tout péché sexuel d'une manière générale. Par exemple, la prostitution, c'est le pornéa, on l'appelle prostitution lorsque tu reçois de l'argent. Le pornéa, on l'appelle l'inceste lorsque c'est avec un parent proche. Le pornia, on l'appelle homosexualité quand c'est avec quelqu'un du même sexe que toi. Le pornia, c'est l'adultère quand c'est avec quelqu'un qui est marié ou si tu es marié. Et le pornia, c'est la fornication lorsqu'il s'agit de deux personnes non mariées. D'accord? Tout cela, c'est le pornia. Et Jésus dit, sauf pour cause de pornia. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut probablement ajouter une autre possibilité. Et ça, c'est l'accoutumance, très poussée, très importante à la pornographie de la part d'un homme. Et qui ne répudie pas. Si un homme persiste à vivre dans la pornographie, c'est le pornéa. Il est en train d'être infidèle à sa femme, c'est l'infidélité, et elle aura probablement cause pour le divorcer. Alors pourquoi est-ce que l'infidélité, le pornéa, est une cause légitime du divorce? Parce que l'acte sexuel est lourd de sens pour Dieu. Nous voyons ça dans le Nouveau Testament que Paul dit à un moment donné, tu ne peux pas te mettre avec un prostitué parce que ne savez-vous pas que celui qui commet l'acte sexuel devient un avec la personne avec laquelle il accomplit cet acte. C'est tellement fort, ce n'est pas de la récréation. Ce n'est pas une manière d'avoir un peu de plaisir. C'est un acte qui comprend toute la personnalité humaine et qui est tellement fort, que abandonner son mari ou sa femme, enfin, tourner vers une autre personne et se joindre à lui dans cette manière complète de la sexualité est une manière de détruire, de briser le lien conjugal. Maintenant, une chose de plus à dire, et puis j'aborde l'autre exception. Mais une chose de plus au sujet de l'infidélité. L'infidélité sexuelle n'oblige pas le divorce, mais le permet. C'est-à-dire, parfois, un couple surmonte même l'infidélité sexuelle. Je connais un couple chrétien dans mon ancienne église à Atlanta où il y a eu l'infidélité. Au début du mariage, dans les premières années du mariage, ce couple s'est converti l'un et l'autre, et le mariage était sur le point de partir en éclats, et ce couple, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, a retrouvé le pardon et a un mariage formidable aujourd'hui, et ça c'est plus de 30 ans plus tard. Donc cela est possible. Maintenant, nous abordons le dernier cas, la dernière exception possible pour un divorce légitime. C'est le cas de l'abandon ou le délaissement d'un conjoint chrétien par un conjoint non chrétien. Et en fait, si j'avais 2 heures avec vous, j'apporterais des nuances, toutes sortes de nuances, parce que les situations sont compliquées, complexes. Et comment aborder cette situation quand elle a commis un adultère, dont l'autre a divorcé, et puis ça devient très compliqué. Mais je vais vous donner le cas dans son cas le plus facile. Hein. Donc, nous lisons ceci en 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 7, les versets 12 à 15. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Attention. Paul ne veut pas dire que c'est pas divin ce qu'il se commande. Il veut dire que Jésus n'a pas dit ça dans l'évangile. N'allez pas chercher le verset, parce que ce n'est pas le Seigneur qui l'avait dit, c'est moi qui vous le dis de sa part maintenant, parce qu'il y a une nouvelle situation qui est venue depuis que le Seigneur est parti et l'évangile est venu dans le monde, et dans le monde païen aussi. D'accord? Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Donc, écoutez bien la situation. L'évangile arrive dans la ville d'Éphèse. Voilà un homme païen qui se convertit. Et maintenant, sa femme, qui ne s'est pas convertie, est là et il se retrouve dans un mariage mixte. C'est cette situation. Si elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point, et si une femme a un mari non-croyant, parce que c'est elle qui s'est convertie, et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère, autrement vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, et le mot c'est un mot de divorce, nous avons un mot séparation et divorce, mais ce mot ici, c'est le mot culte qu'on utilisait pour divorcer. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare, le frère et la sœur ou la sœur n'est pas lié, dans ce cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Lié signifie, c'est le langage de Paul pour dire qu'il est libéré de ce lien et peut donc se remarier. Je ne vais pas essayer d'expliquer tout cela, mais simplement, les croyants auraient pu penser à cause du livre d'Esdras, où les croyants juifs ont pris des femmes païennes et quand Néhémie est venu, ils ont dû les répudier parce que c'est un péché pour un juif d'être marié à une non-juive. Ils pourraient penser que c'était la même chose. « Ah, maintenant je suis devenu chrétien, je ne peux pas être marié à une non-chrétienne. » Et Paul dit non, sous l'évangile, on est dans une situation différente. Alors, ce n'est pas elle qui va te souiller. Ta présence dans le mariage rend ce mariage saint, c'est-à-dire légitime devant Dieu. Tes enfants sont saints, c'est-à-dire ils ne sont pas des bâtards. Ils sont des enfants légitimes, malgré le fait qu'un conjoint n'est pas chrétien. C'est dans ce sens que Paul veut parler. D'accord ? Ne pas dire saint dans le sens d'être converti ou quoi que ce soit. Maintenant, Paul dit qu'il y a des cas où le non-croyant, le conjoint non-croyant, ne peut pas supporter de vivre avec le croyant chrétien. Il ne supporte pas la foi chrétienne de son conjoint. Là, je ne veux pas de ça. Et donc, dans ce cas, s'ils se séparent, la Bible dit que dans ce cas, à cause de cela, le croyant n'est pas lié et peut donc être divorcé et se remarier. Donc, le divorce légitime, deux cas, infidélité et délaissement volontaire. Et dans le code pénal de beaucoup de pays, dans le droit de la famille, le code civil se préoccupe de l'abandon prolongé d'un des époux par l'autre comme cause de divorce sous le nom de rupture de vie commune. Ça, c'est le code pénal français. Je dois juste dire que l'abandon n'est pas seulement quand le conjoint non chrétien part physiquement, mais l'abandon, c'est aussi quand il se comporte de manière à obliger le conjoint chrétien à partir physiquement parce que même sa vie est en danger. Vous pouvez penser à un cas où il y a un abus, où le non-chrétien, tellement fâché, abuse, et pour le conjoint chrétien ne peut pas rester donc au péril de sa vie. Et cela est aussi, je crois, dans le même cadre, il y a un délaissement, il y a une séparation provoquée par le non-chrétien, qui est impossible à réparer. Et dans ce cas, il me semble que nous sommes dans ce cas où le divorce est légitime. Et c'est comme cela, dans le code pénal français, que l'abandon n'est pas simplement défini comme le départ physique d'un conjoint, mais quand le conjoint abuse l'autre de manière à l'obliger à partir, ce conjoint qui a abusé est coupable dans le code pénal français d'abandon de son conjoint. En dehors de ces deux exceptions, le divorce est péché et conduit souvent à un autre péché qui est l'adultère. Et c'est par là que Jésus termine, et moi aussi. Il dit, moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Dans ce cas de divorce, on a péché contre l'amour, contre le Dieu d'amour, contre son caractère. Et on pousse une autre personne à la position où on l'expose à l'infidélité. Parce que pour Dieu, ce lien est toujours, les deux devraient toujours s'aimer et s'être fidèles. Et quitte à rester à part un moment, mais afin de pouvoir se réconcilier. Et lorsqu'il y a divorce, il y a une cassure et il y a une exposition à l'adultère qui est terrible, qui est terrible. Et la plupart du temps, c'est presque sûr, si le couple se divorce assez jeune, que le divorce produit l'adultère, produit l'infidélité, produit une situation où j'étais ton mari, Dieu m'a joint pour toujours, l'homme a séparé ce que Dieu a joint et a fait exactement le contraire, est allé s'installer dans un nouveau mariage qui veut dire je m'installe dans une infidélité permanente et voulue envers mon conjoint d'origine. De l'espoir pour les divorcés. Comme pour tout autre péché que Jésus aborde dans le sermon sur la montagne, la Bible nous explique et notre Sauveur nous explique qu'il est venu pour donner la loi, non pas pour nous condamner, mais il est venu nous donner la loi pour nous exposer, pour nous montrer que sur tous les points, nous sommes tous coupables. Nous n'arrivons pas à garder cette loi de Dieu. Et si une personne est divorcée, elle doit tout simplement, à la lumière de cet enseignement, comprendre que là, je ne suis pas quelqu'un qui est en règle avec ce que Dieu veut de moi. Et par là, je vois combien est grand mon besoin d'un sauveur. De revenir à mon Dieu, de retrouver son plan, de retrouver un amour que je n'ai plus en moi-même, parce que je suis tordu. Et si quelqu'un est divorcé de manière illégitime, que faut-il faire? Il faut régler autant de choses qui peuvent l'être. C'est-à-dire, il faut se repentir du fait d'être divorcé et du comportement, des attitudes qui ont causé ce divorce. Il faut chercher la réconciliation avec le conjoint, même si le conjoint maintenant est marié, ou vous êtes marié, ou les deux, et vous ne pouvez bien sûr pas vous remarier, vous pouvez demander pardon. Vous pouvez réparer, dans une certaine mesure, une relation brisée. Vous pouvez, avec honnêteté et vraie contrition, dire que j'ai été infidèle envers toi, je suis vraiment, vraiment désolé. Vous pouvez aussi faire de la restitution pour tous les dommages personnels et financiers que vous avez causés à votre conjoint. Autant que possible. Et vous pouvez montrer que là, je fais ce que je peux pour me remettre dans le plan de Dieu. Nous ne devons pas rompre des alliances, mais quand nous rompons une alliance, nous devons avouer que nous l'avons fait et nous devons chercher notre Dieu qui, lui, ne rompt pas ses alliances. Ce Dieu, nous pouvons aller à lui parce que dans la Bible, et c'est la dernière parole, il nous révèle qu'il est celui qui reprend son épouse infidèle, qu'il a répudiée, Dans l'Ancien Testament, Israël est vu comme une femme adultère qui est allée vers des faux dieux. Et dans le livre de Osée, nous entendons ceci de la part de Dieu envers cette femme infidèle. Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse comme les peuples de ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel, le délaissement. De ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires à blé, prostitution. Et puis il dit, Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités, reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. La Syrienne ne nous sauvera pas, ainsi de suite. Et tu es notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve la compassion. Et Dieu dit, si vous revenez comme ça, voilà quelle sorte d'amour j'ai. Je réparerai ton infidélité, j'aurai pour toi un amour sincère, car ma colère s'est détournée de toi, je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys. Quel Dieu nous avons. Et donc, il y a de l'espoir pour toute personne divorcée, et il y a de l'espoir pour nous tous qui parfois divorçons un tout petit peu dans le cœur avec notre conjoint, n'est-ce pas, par nos agissements, même si nous ne l'avons pas fait légalement. Que Dieu nous aide.
Vous invite à vous lever, on va finir ce culte par un dernier chant.